Vous écoutez un podcast original de Radio B. Cette série de 8 épisodes donne la parole à des femmes concernées par les conduites addictives. Alcool, médicaments, substances illicites, derrière les produits, il y a des parcours de vie, des histoires singulières, souvent invisibilisées. À travers ces témoignages, ce podcast propose un espace de parole sobre, respectueux et sans jugement pour mieux comprendre les réalités de l'addiction au féminin, ses mécanismes, ses impacts et le chemin possible vers l'accompagnement et le soin. Ce projet est réalisé avec le soutien de la MILDECA, mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, financée par la préfecture de l'Ain. Tout au long de cette série, les voix que vous entendrez ont choisi de témoigner pour faire reculer les tabous, informer et contribuer à une meilleure compréhension des enjeux de prévention et de santé publique.
Pendant que je buvais à l'époque, pendant quelques années, j'allais à l'hôpital toutes les semaines parler avec la psychologue. Et on est monté en arrière depuis l'enfance pour faire surgir des émotions. Et à chaque fois, je pleurais. Moi, je suis né dans le Midi. J'habite en Savoie actuellement. Je ne travaille plus parce que je suis à la retraite depuis l'année dernière, 1er juillet. Alors, moi, je suis divorcée, mais j'ai 2 enfants, 4 petits-enfants, mais qui habitent au Canada. Voilà, et je vis toute seule. En quelques mots, c'est que j'ai besoin d'aide par rapport à l'alcool. Et c'est pour ça que je suis venue me faire soigner, parce que j'en avais drôlement besoin. Seule, je n'y arrivais plus. Ça devenait un enfer. Alors, si je me souviens bien, quand j'étais jeune, je devais avoir 7-8 ans, quand mon père recevait le monsieur pour les assurances, il lui offrait la nisette. C'était comme ça, mon père ne buvait pas. Et moi, quand il raccompagnait le monsieur à la porte, il restait un fond à nisette, je le goûtais. Et je trouvais ça drôlement bon. Mais après, je n'ai pas bu après, bien sûr que non. Après, j'ai commencé à boire quand j'avais... J'étais jeune fille, 20 ans, 21 ans, comme tout le monde, mais très très modérément, parce que je vivais chez mes parents. Je me suis marié à 20 ans. Après, on avait des apéritifs, mais ce n'était pas encore rentré dans le système de l'alcool. Et moi, j'ai commencé à vraiment rentrer dans l'alcool, c'est après la maladie de mon fils. Il a eu un rétinoblastome, c'est le cancer de la rétine. Et de là, j'ai vécu des années à Paris avec lui, aller-retour Cannes, Paris. Et c'est longtemps après, on a ouvert un restaurant dans le Pas-de-Calais. Et là, l'alcool a commencé à venir, dans la restauration. Les clients, ils nous offraient un coup à boire, nous, on offrait un coup à boire, et c'était un cercle vicieux, en fin de compte. Et après, quand on est parti du Pas-de-Calais, on est arrivé en Savoie, longtemps après, j'étais pas vraiment encore rentré dans l'alcool, mais pareil, on travaillait dans un restaurant. La maison, c'était l'apéritif, tout ça. Et mon mari, on se rendait compte que je buvais de plus en plus. Puis il m'a dit, ça serait bien que tu fasses une cure, parce qu'autrement, je pense que ça ne va pas le faire. Et à force d'entendre ça, j'avais peur qu'il divorce. Alors je l'ai fait pour lui au départ, et pour les enfants. Mais je ne l'ai pas fait pour moi. Pour moi, c'était presque évident qu'il fallait le faire. Et ça n'a pas marché quelque part, parce que je ne l'ai pas fait pour moi. Cette fois-ci, par contre, je suis venu pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Mais en premier, pour moi. La décision, c'est moi qui l'ai prise. Pas une autre personne. C'est moi, quand j'étais, avant de me marier, j'étais jeune fille, je n'ai pas profité de ma jeunesse. À 40 ans, j'ai voulu prendre des ailes, comme si j'étais une gamine. Et c'est de là que je commençais à sortir, boire un canon, tout ça. Et lui, il n'a pas accepté. Ça finit par un divorce. C'est comme ça. Malgré que je l'aimais, malgré qu'il m'aimait, mais c'était plus possible. Et après, je suis rentré dans le cercle vicieux avec l'alcool, les copains, les copines, tout ça. Et là, ça devenait, j'ai fait 3 cures entre deux. Parce que ça a été très difficile. On m'a aidé. Après, les docteurs, je les écoute énormément. Les psychologues, pendant que je buvais à l'époque, pendant quelques années, j'allais à l'hôpital toutes les semaines parler avec la psychologue. Et on est monté en arrière depuis l'enfance pour faire surgir des émotions. Et à chaque fois, je pleurais. J'arrivais pas à monter. Ça a duré pendant au moins 2 ans comme ça. Je pensais pas pleurer quand j'arrivais, quand elle me faisait parler des émotions quand j'étais jeune. Non pas que j'ai eu une mauvaise jeunesse, hein, mais toutes les émotions ressortaient. Et là, ça a été très dur d'en parler. Et puis, j'ai réussi de... Maintenant, je parle facilement. Parce que même de mon fils, si ça avait été avant, je ne pouvais pas en parler. Je pleurais tellement que je ne pouvais pas. Même quand je suis arrivé ici, le premier jour, j'ai vu le docteur. Oh, j'ai fondu en larmes. Hein. J'étais abstinente pendant très longtemps, ou une dizaine d'années. Et j'ai eu un cancer. Un cancer des poumons. Ça fait que pendant 3 ans, je n'ai bu aucune goutte d'alcool. Parce que ce n'était plus possible avec la chimiothérapie, l'immunothérapie. Et j'étais en rémission il n'y a pas si longtemps, 18 mois de rémission. Qu'est-ce que je fais? J'allais plus dans les hôpitaux et tout ça, je me sentais seule. Parce que même aller à l'hôpital, c'était sympathique, moi je trouvais. Parce qu'on allait voir les infirmières, il y avait du mouvement dans ma vie. Et du jour au lendemain, il n'y a plus rien eu. Et bien, je m'ennuyais, alors je commençais à boire, tout simplement. Et voilà, alors j'ai eu 3 cures il y a très longtemps. Et là maintenant, j'ai décidé de me prendre le taureau par la main, hein, et de venir à la cure, parce que je n'y arrivais plus. Ça commençait par un verre. Moi, par contre, il ne faut pas que je bois plusieurs verres. Un verre, ça commençait par un verre. C'était une bouteille et demie, deux bouteilles et demie, deux rosées. Et tant que j'étais pas KO, c'était pas possible. Une fois, je suis même tombé sur ma télévision, parce que la hauteur n'était pas haute. Je suis tombé en avant, c'est parce que j'ai perdu l'équilibre. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas être blessé. Et puis, par contre, j'avais des trous de mémoire le lendemain. Parce que quand on boit, on appelle tout le monde. Et mes enfants s'en sont rendus compte, surtout ma fille, qui n'était pas du tout contente. Et le lendemain, ma copine, elle me dit, « Tu te rappelles ce que tu disais, que tu as dit hier ?» Je dis, « Non. » Elle me racontait, mais c'était dingue. Hein. Alors, un trou de mémoire complet. Hein. On ne se rappelle de rien. Mais bon, comme j'ai 63 ans, moi, je me suis dit, le bon Dieu m'a donné la chance de guérir de mon cancer. Pourquoi je mets ça là-dedans? Parce que je risque de plus m'en sortir, je pense. Voilà. Et lui, là, je suis rentrée de moi-même. J'étais voir une addictologue à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne, je peux le dire. Et j'ai parlé de mon problème. Et c'est vrai qu'au départ, j'en pleurais, j'avais honte. Parce que pour moi, c'était très dur d'en parler. Parce que 4e cure, franchement, j'avais honte, j'étais gênée. Et en fin de compte, j'ai pris le haut et on a rempli les papiers pour venir ici à l'Espérance. Et puis voilà. Et je pense après, je m'en vais post-cure, à Blétrand dans le Jura. Ça va m'aider à consolider justement pour ne pas être tentée. Pour moi, c'est impératif. Parce que je veux vraiment arrêter complètement. Autrement, c'est plus possible de vivre comme ça. Voilà. Et autour de mon entourage, ma famille le sait. Mon ex-belle-mère, mon ex-mari, je m'entends bien avec, ils le savent. Mais par contre, ils ont été surpris, surtout mon ex-belle-mère. Elle m'a dit, je ne m'y attendais pas, c'est un choc. J'ai commencé un choc. Elle m'a dit, je ne m'attendais pas à ce que tu refasses une cure. Elle m'a dit, je m'en étais un peu rendu compte. Mais comme toi, tu as l'accent du midi et que tu chantes quand tu parles, elle m'a dit, je ne m'en rendais pas bien compte, parce que moi, je parle très, très vite. Et je lui ai dit, oui, mais par contre, pour lui dire, j'ai dû lui parler à mon ex-beau-frère, qui est chirurgien, et j'ai dû l'appeler pour lui demander s'il pouvait en parler à sa maman. Parce que moi, je ne savais pas comment lui dire. J'étais gênée, j'avais honte. Et puis là, maintenant qu'elle le sait, elle a changé complètement avec moi. Elle est beaucoup plus sympathique, plus attentionnée. C'est ce que j'attendais au départ, en fin de compte. Voilà. Et même mes enfants, ils reviennent. Ma fille qui était en train de s'éloigner de moi, elle revient vers moi. Par contre, Cédric, j'ai toujours eu un lien très fort avec lui parce qu'avec son cancer, voilà. Et il m'a dit, maman, s'il faut t'engueuler de temps en temps, parce que de temps en temps, il m'engueulait au téléphone, hein, depuis le Canada. Et puis il me dit, s'il faut t'engueuler, je t'engueulerai. Il me dit, par contre, tu es ma maman, j'ai qu'une maman et je t'aime. Quoi qu'il arrive, je suis toujours là pour toi. Et ça m'a touché. Ma fille, je lui dis je t'aime, elle sait pas le dire. Mais là, je pense que ça va aller mieux, mais il faut lui laisser du temps. Parce que quelque part, elle, dans sa tête, elle peut penser que ben, c'est quatrième cure et pourquoi pas une cinquième. On ne sait pas ce qu'elle doit penser. C'est, je pense qu'elle a peur que je mente. Parce qu'un alcoolique est menteur. Hein. Eh ben, un alcoolique est menteur dans le sens, ben, moi des fois, ma belle-mère, elle me disait, bon, t'as bu un coup? Je dis, non, j'ai pas bu un coup. T'as pas été à tel endroit, parce que des fois, je faisais ou le sport, ou des réunions, des trucs comme ça. Elle m'a dit, t'y as pas été? Je dis, non, j'étais malade. Ce sont des mensonges. Parce que je pouvais pas lui dire que j'étais en train de cuver l'alcool que j'avais bu la veille. C'était pas possible. Par contre, quand je buvais, que j'étais vraiment fatigué, le lendemain, je me levais, je n'arrivais même pas à prendre ma douche tellement que j'étais fatigué. Je ne mangeais pas pendant 2 jours, mais j'étais KO, hein. Et quand j'avais des rendez-vous, par contre, surtout, je ne buvais pas. J'essayais de me contrôler, mais des fois, ce n'était pas possible. C'était plus fort, et je trouvais que l'alcool venait de plus en plus dans ma vie. J'ai dit, si je ne le fais pas moi, je ne m'en sortirai jamais. Parce que ce n'est pas les copains ou les copines. Moi, je n'en ai pas des masses d'amis. Hein. Mais certains, non, ils me disaient que je n'étais pas alcoolique. Moi, je sais que je suis alcoolique. Parce qu'un verre, c'est zéro chez moi. J'ai vidé une bouteille, je vais prendre même la voiture en étant alcoolisé. Dans ma vie, on m'a retiré le permis à 2 reprises. Et puis, c'est vrai que j'aurais pu être un danger pour une autre personne. On n'est pas conscient quand on conduit qu'on a bu. Parce qu'on est excité, on met la musique forte dans la voiture. C'est une autre vie, on est dans un autre monde. On se sent fort, plus fort que tout. Et en fin de compte, ce n'est pas vrai, parce que si un jour il y a un accident... Ce qui m'est jamais arrivé, j'ai beaucoup de chance. Mais on peut tuer quelqu'un et on peut se tuer aussi en même temps. Et c'est surtout tuer quelqu'un. Ça m'est jamais arrivé, heureusement. J'ai eu de la chance dans l'histoire. Et moi, l'arrêt de l'alcool chez moi, c'est que j'ai envie de retourner au Canada voir mes enfants en vacances. Parce qu'avec la maladie, je ne pouvais pas. J'y suis allé une fois pendant que j'étais malade. J'ai failli être rapatrié parce que j'attrapais froid dans l'avion. Et ben, j'étais en pleine chimiothérapie, c'est pour ça. Et puis j'ai envie de partir en vacances, voir mes enfants, mes petits-enfants, les voir grandir. Ça, moi, c'est mon but. D'accord. Je cherchais à oublier, être heureuse. Ah, sur le moment, j'étais heureuse. Je buvais un petit canon, je préparais à manger. Les premiers verres, c'était bien. Et après, au fur et à mesure que ça avançait, des fois, je ratais le repas. Parce que je le ratais dans le sens, le goût n'était pas bon. Je salais trop, parce que c'est pas possible quand on boit et on essaye de goûter la sauce tomate de ce qu'on prépare, ça change le goût complètement. Après, je mangeais pas, mais j'étais bien sur le moment. Mais après, j'étais malheureuse. Au bout d'une bouteille, et demie, j'appelais tout le monde et je pleurais, machin. Il y en a qui me comprenaient, mais il y en a qui ne me comprenaient pas. Ou on m'engueulait, ou alors ma copine qui me parlait, elle essayait de me remonter le moral parce qu'elle savait comment j'étais. Je cherchais juste... d'être bien. Au départ, c'est ça, d'être bien. Mais en fin de compte, ça fait le sens inverse. Quelque part, c'est parce que je suis seule. Je vis seule, je ne vois pas beaucoup de monde. Et je cherchais justement ce manque, parce qu'il n'y a personne chez moi. Parce que mon amie, ma copine, elle vient de temps en temps. Oh, des fois, quand je sors en ville, je vois quelqu'un, on boit un café. Mais ce n'est pas la même chose. Je n'ai personne avec moi. Les journées sont longues des fois. Et l'alcool, c'était mon ami quelque part. C'était mon ami. Mais après, c'était Satan, c'était plus mon ami. Le lendemain, je disais, eh ben, celui-là, il m'a eu encore. J'avais peur de tomber sous la douche. J'étais fatigué, mon corps ne me tenait plus. Et même, je regardais la télé, paf, les yeux s'endormaient. J'étais comme un robot pendant 2 jours. Et je regrettais d'avoir bu la veille. Mais c'était fini. Et 3 jours après, je recommençais, je dis, Yasmina, le lendemain, ça va te refaire pareil, tu vas être fatigué, pas bien. Mais malgré tout, ben, je recontinue. J'arrive pas à m'arrêter, en fin de compte. C'est pour ça que j'ai trouvé cette solution. Hein. Que quand je suis rentré dans une première cure, je pensais que j'allais m'en sortir. Et je disais, je ne boirai plus, tout ça, j'étais sûr de moi. Et puis bon, dans la vie, ça fait en sorte que je rencontre des fois des personnes qui boivent, moi... En fin de compte, il a fallu que je me retire de ces personnes-là pour ne pas rentrer dans ce tourbillon. Et puis après, j'ai lâché prise et je suis rentré dans le système de discuter avec des gens qui buvaient, qu'ils étaient dans le déni. Et puis moi, quelque part, sans le vouloir, je suis rentré dans ce déni-là. Je pensais contrôler. Là, maintenant, je subis. Je subissais avant de venir ici. Il n'y avait plus de contrôle du tout. Je ne pouvais pas dire « Non, je vais arrêter comme ça. » Je ne pouvais pas. C'est ça, ça venait automatiquement. Qu'avant, bien avant, il y a beaucoup d'années en arrière, je pensais que je réussirais. C'est pour ça que même en sortant de là, de Hauteville, je vais me faire suivre par une addictologue à l'hôpital Saint-Jean. Je vais aller dans des groupes de parole. Je pense qu'en rentrant, il ne faut pas que je reste toute seule à ne rien faire comme activité. Parce que autrement, je vais replonger. Il faut changer les habitudes. Et c'est pour ça que je ne vais pas partir tout de suite en post-cure. Et il va falloir vraiment que je sorte de chez moi. De ne pas rester comme avant à la maison, regarder la télé, ne pas beaucoup sortir. Parce que je ne sortais pas beaucoup, en fin de compte, quand on regarde bien. Et tenir pendant 3 mois jusqu'à fin janvier. Et partir en post-cure pour me consolider. Alors, avant de venir ici, bon, j'ai un copain, un ami. Ce n'est pas mon copain, hein, c'est une relation. Il boit beaucoup whisky, alors dans une petite bouteille d'eau, il met à peu près 3-4 cm de whisky, le reste en eau, et il boit toute la journée. Il me dit « Non, moi je ne bois pas, tu te rends compte ?» Parce que chez lui, j'ai déjà bu, moi quand je buvais un verre de verre, je dormais chez lui, hein, dans la chambre d'amis, parce que je ne pouvais plus prendre le volant. Et le lendemain, il me disait « Oui, tu as beaucoup bu, tu es saoulante quand tu bois. » Et j'ai dit, mais toi aussi, tu bois toute la journée. Il me dit, non, moi, je ne bois pas. J'ai dit, ben, je suis désolé, tu es dans le déni. Et puis, cette personne, il ne faut plus que j'aille la voir. Par contre, il ne faut pas couper les relations parce que ça reste un ami malgré tout. Je l'aurai au téléphone, mais il faut que je me protège. Il ne faut pas. Il faut que je tombe sur des personnes que je connais déjà, qui ne boivent pas. Voilà. Après, quand ma belle-mère m'invite à manger chez elle, mon ex-mari boit son petit whisky, elle son petit whisky, moi elle m'achète mon jus d'orange, il n'y a jamais eu de problème. Ça ne me donnait pas envie de boire, parce que j'étais chez eux et je savais qu'ils ne savaient pas que je buvais. Mais quand tu as un contest où les gens picolent, ben j'ai envie de picoler, surtout quand ce sont des relations que j'ai, comme ma copine. Avant de venir ici, elle me dit « Oui, je remets une bouteille de rosé, machin ». J'ai dit « Non, il faut que je rentre 3-4 jours avant sans avoir touché l'alcool ». Parce que j'ai pas envie d'arriver la tête excusez-moi l'expression, dans le cul. J'ai dit, moi, il faut que je rentre bien quand même. Parce que c'était pas possible d'arriver à moitié saoul ici. Hein. C'était déjà honteux. Alors si en plus j'arrivais, que j'avais pas les idées en place, c'était encore plus la honte, quoi. Mais c'est vrai que je suis rentré dans le système de l'alcool aussi, parce que j'ai perdu beaucoup de famille. Il y a eu mon fils qui était très très malade. Il s'en est sorti, heureusement, grâce à Dieu. J'ai perdu ma sœur, j'ai perdu des frères et sœurs. De 12 dans la fratrie, on n'est plus que 5. Cancer, cancer, cancer. Tous les 2 ans, ça a été mon parcours. C'est pour ça que j'ai rechuté à chaque fois. Et j'ai perdu mon père, que j'adorais, ma mère aussi. Ma mère, je l'ai perdue il y a 2 ans, alors que j'étais en pleine chimiothérapie. Tout ça, ça a été énorme pour moi. Et j'ai un frère dans le Midi, il a le cancer des poumons aussi. Ah, on est tous bénis. Du côté de ma mère, il y a eu beaucoup de cancers. Et puis ben là, maintenant, j'ai peur pour lui, de le perdre aussi. Et c'est pour ça que j'ai plongé ben, un peu mon chagrin avec l'alcool, hein, c'est ça. Inconsciemment, je ne m'en rendais pas compte, mais quand j'analyse, je pense que c'est toutes ces pertes de famille. Même les photos, je ne les regarde même plus. Parce qu'autrement, ça me fait travailler le cerveau et puis ben, j'ai envie de boire. Et puis quand je suis triste parce qu'on m'a dit des méchancetés, je suis malheureuse, et ben je mets, pour effacer mon chagrin, ben je me mets à boire. Et voilà. Ou quand je suis très heureuse, quelque chose, on me dit quelque chose de bien, une bonne nouvelle, quand je suis trop contente, et ben je me mets à boire. En parler, il faudrait déjà aller voir une addictologue, en parler à son docteur de famille. Parce que lui, il peut l'orienter quelque part. Parce que des fois, on n'arrive pas à parler à la famille. Et puis, justement, elle va l'aiguiller pour pouvoir parler à sa maman ou à son papa.
Je suis sur une étoile, vous ne